Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la QUnit, la communauté dédiée à augmenter l'impact de la qualité logicielle. Nous avons échangé avec Benjamin Butel sur un sujet qui l'agaçait tout particulièrement. Je vous laisse une piste, le sujet du ROI. Benjamin possède une expérience éprouvée de la qualité au service du produit, de la création de valeur et de la satisfaction client. Je vous laisse découvrir le sujet, consultez le site pour accéder à de nombreux contenus relatifs à notre partage. Une bonne écoute, souscrivez pour les prochains épisodes. Bonjour, donc bienvenue dans cette interview de la QUnit. Donc aujourd'hui, je suis avec Benjamin Butel. Donc très heureux de te recevoir, Benjamin, ça va ?
Merci Antoine, ravi aussi d'être là. Ouais, ça va bien et toi ?
Très bien, très bien. Et en plus, je vois qu'il fait beau chez toi, il y a un peu... Tout la lucarne là, j'ai l'impression qu'il fait bien chaud, donc tant mieux, on profite un peu des beaux jours.
Ouais, et... C'est orageux surtout, Rennes. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré, ouais.
Ok. Et du coup, tu peux commencer par peut-être te présenter, ça peut être pas mal. Du coup, tu peux donner les choses voilà, pro, perso, ce que tu as envie de partager avec l'éditeur.
Ça marche. Bah, moi, je suis coach de test chez Klaxoon actuellement, société française. Qui fait un logiciel pour tout ce qui est collaboration, outils collaboratifs, grosso modo. Une de mes passions, effectivement, c'est le test logiciel, puisque au-delà de mon rôle de test coach, j'aime beaucoup intervenir auprès donc, du Ministry of Testing, puisque j'héberge la partie rennaise. Et puis, depuis le confinement, avec mes collègues des autres villes, on a fait du online au niveau France. Donc, c'était plutôt intéressant. C'est même très intéressant. J'aide aussi à l'organisation de la Paris Test Conf également cette année. J'ai rejoint les rangs des organisateurs cette année. Voilà. Et puis, de temps en temps, je n'ai pas été très assidu cette année encore, mais depuis quelques années, j'essaie de partager finalement ma vision du test, ma connaissance du test sur la taverne du testeur avec des articles. Donc voilà, j'essaie de contribuer en tout cas à notre joli métier, à mon humble échelle.
Non, on voit que c'est une communauté qui s'est vachement étoffée dans les dernières années. Ouais. C'est vachement bien de voir ça. Et puis ouais, Covid a eu des plus, des moins, mais je pense que ouais, on voit les événements Ministry of Testing. Je voyais qu'à chaque fois, c'était la limite de combien, 100 ou 150 participants. Vous étiez presque obligé de dire il y a une limite.
Moi, on est à 100 actuellement et c'est assez souvent qu'on atteint le palier, ouais.
D'accord. Ok. Bon, et puis aujourd'hui, du coup, pour partager, j'ai déjà fait quelques interviews où c'était pour obtenir une perspective un peu en mode SWOT autour de la qualité logicielle, sa transversalisation, etc. Et bon, on a échangé. Et aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Et du coup, tu me partageais que tu avais un sujet qui t'agaçait particulièrement donc dans le domaine du test et de la qualité. Alors, tu peux... Ouais. On va dire un peu plus, c'est du coup.
je vais me faire des copains. non, mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai vu passer pas mal de choses, particulièrement sur LinkedIn, sur le calcul de ROI, de l'automatisation.
Retour on investment, c'est ça, ouais, retour, ok.
Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, le retour sur investissement. Oui, effectivement, ouais. Tout le monde n'a pas forcément le terme ROI. Et ce qui m'a souvent agacé, c'est que le contexte n'était pas forcément présent.
Il y a une ligne. Compliqué.
Voilà, ouais. C'est ça, c'est extrêmement compliqué de répondre à la personne. Et surtout, pour moi, ça soulève surtout une grande question qui n'est souvent pas posée, donc pas répondue, c'est pourquoi ? Pourquoi vouloir calculer un ROI ? Quel est l'objectif derrière le calcul de l'ROI ? Derrière, ça peut tirer surtout la question de pourquoi on veut automatiser. Et derrière, ça tire toute une réflexion que je ne vois pas, qui, quand j'essaie de challenger, n'arrive pas, du coup. Et on veut rester sur ce sacre de l'indicateur, sur ce sacre du gain financier, finalement. Alors que moi, honnêtement, à titre personnel, je pense que c'est juste inutile, très honnêtement. Particulièrement en agilité.
Ouais, on focalise un prix uniquement, donc un ROI sous-entendu financier, donc monétaire, et comme si. Voilà. Est-ce que ça va au sujet avec la différence de. On va dire, valeur n'est pas la qualité, ne sont pas les tests, etc. C'est peut-être ça. Hein. Est-ce que c'est ça que tu as derrière la tête, la notion de valeur pour parler d'agilité
ouais. Pour moi, oui, carrément, parce que. Si on essaie de répondre à la question de. pourquoi on automatise, en fait.
Ouais.
Si la réponse est dire, ah bah, c'est pour aller plus vite dans ma recette, carton rouge, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que la vraie question, c'est pourquoi tu vas aller plus vite dans ta recette, dans ces cas-là. Si la réponse est pour livrer plus vite, déjà, il commence à y avoir un premier élément de réponse. Ok, livrer plus vite. C'est quoi que tu veux livrer plus vite? Ah bah, c'est cette fonctionnalité-là. Bah, pourquoi tu veux livrer plus vite cette fonctionnalité-là? Et en fait, tu vas tirer, je ne vais pas faire l'exercice jusqu'au bout, hein, mais tu vas tirer, en fait, finalement, le fondement même de pourquoi tu développes, pourquoi tu fais tout ce travail-là. Donc derrière, c'est finalement la valeur. Pour moi, le point de départ, c'est quelle valeur on veut apporter en complément pour qui. Donc voilà. Et si on repart de ce point-là, de la valeur, est-ce que c'est effectivement l'automatisation, et particulièrement en quoi calculer le ROI permettra d'identifier qu'effectivement, on va produire la bonne valeur au bon moment, au meilleur coût. Est-ce que c'est vraiment ce calcul-là? Et c'est cette chaîne-là, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'on prend les choses à l'envers.
Perspective, en fait, on se met en bout de chaîne presque. Moi, j'ai fait mes tests manuels, j'en ai 100, ça me coûte autant d'heures par mois, du coup, je fais un ROI, je vais automatiser ces tests manuels, je vais gagner autant. Mais en fait, on ne remonte même pas du tout la chaîne de c'est quoi, en fait, pour créer quelle valeur, pourquoi. Et ce que tu disais, c'est l'automatisation doit être une conséquence d'un apport de valeur mesuré, ou en tout cas identifié à la base.
L'automatisation est un outil pour moi, comme le test d'ailleurs. Le test est un outil, je vais même aller plus loin, la production logicielle n'est qu'un outil. La plupart du temps, quelques sociétés qui font de la pure édition logicielle, donc on va dire que la production logicielle est plus que l'outil, c'est leur métier, mais la plupart du temps, le métier, ce n'est pas l'outil qu'on est en train de développer. Si on prend les outils qui supportent le métier de la banque, par exemple, le métier, ce n'est pas faire le produit, c'est bien faire le métier de banquier. Ce ne sont que des outils qui viennent supporter pour accélérer finalement le métier et sublimer le métier. Donc si on se remet dans cette perspective-là, l'automatisation n'est qu'un outil parmi d'autres qui permettra effectivement d'apporter cette valeur, cette nouvelle valeur, et de la sublimer en production dans des délais dits raisonnables, entre guillemets, et à des coûts acceptés. Mais du coup, le calcul du ROI de l'automatisation, qui est souvent pris sur le prisme, j'ai 50 tests cas manuels, si j'en automatise la moitié, oh là là, je vais gagner au moins la moitié de mon temps et je vais pouvoir faire autre chose. C'est bien que l'autre chose, tu le passes à faire ta maintenance de tests qui ne marche pas. Mais voilà, tu vois, je m'interroge vraiment beaucoup en fait sur la pertinence de ça, et je le vois souvent et ça m'agace un peu parce que je pense que les gens ne prennent pas le bon recul et surtout les organisations ne prennent pas ce bon recul, et j'ai du mal à comprendre pourquoi d'ailleurs ils ne prennent pas ce recul.
Oui, on biaise le débat, en fait. C'est loin d'être la bonne question à poser, en fait. Fais-moi un ROI sur l'automatisation, combien je mets pour... Voilà, mais ce n'est pas du tout le bon sujet, quoi.
Oui, et puis... certes, ça peut-être apporter un bénéfice ou un facteur confiance, à la limite. Ça pourrait apporter un facteur confiance, mais dans les faits, si on répond à la question de pourquoi on automatise et pour qui on automatise... C'est pas le ROI qui va permettre de décider de dire on y va ou on n'y va pas, pour moi.
Ouais, c'est ça, un peu comme la notion d'outil, tu disais l'automatisation au service, mais pareil, le ROI, en fait, n'est pas le bon outil pour mesurer la production de valeur.
C'est un outil, ça peut être un outil parmi d'autres, mais il est clair que le ROI de l'automatisation, c'est pas ce qui permettra de piloter la production de valeur. S'il y a un indicateur qui doit être posé, c'est plutôt en quoi... un certain nombre d'actions ou modifications dans la façon de faire permet de produire une meilleure valeur. Donc, en fait, c'est comment on mesure qu'on produit la valeur et comment on mesure qu'effectivement, on la produit mieux. Et le ROI peut-être une partie de l'émotion, mais je ne pense pas que ça doit être le principal. Et l'automatisation, je ne pense pas non plus que ça soit systématiquement l'outil magique, puisque... souvent, ça répond à des faux problèmes, à des mauvais problèmes. Alors, on va aller plus vite, mais c'est peut-être parce qu'on produit mal aussi du premier coup. Donc, peut-être que c'est peut-être pas l'automatisation qui va faire qu'on va produire mieux. On va peut-être voir un peu plus vite que ça a été mal produit. On va gagner 2 jours.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que globalement, c'est déjà le bon sujet à la base?
C'est ça.
Et du coup, ça pose une véritable question qui est notre focus doit être la production, hein, ce que tu disais, je pense, la production de valeur et créer un écosystème organisationnel qui itère et améliore incrémentalement la production de valeur. Du coup, ça pose quand même la question, le ROI est un de ces éléments, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait si on veut du coup mesurer cette production de valeur qui, j'imagine, doit pas être... Voilà, il n'y a pas de réponse crystal clear, un Excel qui répond à toutes les questions. Donc,
Un Excel, je ne pense pas. Je pense que des outils de satisfaction client sont des bons moyens de mesurer la valeur d'un produit. Parce que également, le taux de transformation d'achat en fonction des choses, satisfaction des utilisateurs du produit, donc que ce soit des utilisateurs acheteurs ou utilisateurs tout court, et comment en fait le logiciel derrière, finalement, permet d'accélérer le métier ou de faciliter en tout cas le métier des gens derrière. C'est pas toujours une question de vitesse d'ailleurs, ça peut être une question de confort aussi. Ça peut être un peu plus long mais plus confortable. Donc voilà. Et les indicateurs qui sont très contextuels finalement, là je pourrais pas t'en sortir parce que pour moi c'est vraiment très dépendant de chaque business, métier, de chaque contexte. Ouais. Ouais, exactement.
Ses clients.
Ont plutôt intérêt à essayer de mesurer ça. Et ensuite, tu peux te poser la question de comment, effectivement, par rapport au logiciel que l'on veut construire, par rapport à la suite logicielle que l'on veut construire, ou au système d'information que l'on veut construire, comment on s'organise et comment on identifie des indicateurs pour mesurer, effectivement, qu'on a la bonne organisation pour atteindre, justement, la première valeur. Mais il n'y a qu'en partant vraiment de ce pourquoi ça existe, qu'on va pouvoir y trouver les bonnes organisations, les bons outils, du coup. Voilà. Et forcément, au début, il n'y a pas de miracle. Hein. Au début, tu pars d'un instant T, d'un état donné. Il est peut-être déjà très bien, cet état. Il est peut-être bancal, et peu importe, tu pars d'un état. Et c'est à partir de cet état-là que tu vas essayer de mesurer si les modifications qui sont en surprise, vont apporter à des bénéfices. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est là où, effectivement, les tests auto peuvent apporter un intérêt. Mais calculer le ROI des tests auto, je ne vois pas en quoi il va apporter un intérêt, justement, sur l'identification de « on va produire mieux ». Par contre, essayer de commencer à mettre en place les tests auto, imaginons, l'état, c'est de dire bah, « voilà, on a déjà plein de choses, on a un produit qui est déjà en prod », a quand même pas mal de bugs, voilà, on a des tests, est-ce qu'il serait pertinent de commencer à automatiser pour voir si ça peut nous aider? Bah, moi, j'ai envie de dire, ne vous embêtez pas à calculer un ROI, allez-y, identifiez un premier petit périmètre, et commencez.
Et mesurer l'apport de valeur, en fait, c'est ça? Mesurez pas combien de temps vous avez gagné.
C'est ça, ça va peut-être vous faire gagner du temps, ça va peut-être vous en faire perdre.
Ouais.
Voilà, c'est possible.
Ouais, c'est ce que tu dis, en fait. La valeur va être vachement différente, quoi. Sur un contexte, ça va être, en fait, nous, on perd beaucoup de temps sur des cycles de validation qui nous permettent d'être réactifs aux clients. Donc là, ça va nous servir à ça. Pour d'autres, ça va être la confiance parce que c'est des process manuels hyper error prone. Enfin, voilà. Donc, effectivement, mais ça dépend fortement du contexte et vers quelle valeur on va chercher, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis, si tu places d'un point de vue d'une équipe agile, par exemple, pour moi, l'une des plus grandes forces de l'automatisation au sein de l'équipe agile, c'est que l'équipe soit confiante sur le fait de dire « c'est bon, on peut cliquer sur le bouton ». Les tests doivent être là pour nous protéger durant le développement. Et du coup, la pertinence du calcul de ROI n'a juste plus de sens puisqu'on n'est plus dans un prisme de « j'ai des 4 tests manuels, j'ai des 4 tests auto ». C'est « j'ai quelque chose à construire, j'ai quelque chose à produire ». Comment nous, équipe, on produit ça. Il y a la partie, effectivement, pure productive dans le logiciel. Il y a comment on injecte la qualité là-dedans. Et finalement, l'automatisation, le manuel, le test exploratoire ne sont que des outils parmi d'autres pour injecter, finalement, la qualité dans cette production. Et en sortie, bah, tu as un incrément produit avec tout son écosystème qui va autour. Et c'est ça qui, finalement, permet de dire à l'équipe, de dire, bah, oui, notre manière de fonctionner comme ça, ça marche bien. On a encore des axes d'amélioration. Ça peut être intéressant justement d'essayer de les mesurer. Ça peut être du ressenti, ça peut être du factuel. Les axes d'amélioration peuvent être aussi sur le taux de rollback, le taux d'anomalie. On peut avoir des éléments factuels, mais j'ai du mal à me projeter justement avec... il faut qu'on calcule le ROI avant de démarrer déjà de l'automatisation pour voir si l'équipe ressent, se dit « tiens, ça pourrait être une piste pour nous aider ». Allez-y, essayez. Prenez un sprint sur lequel vous faites un petit jet. Si ça marche, continuez. Si ça ne marche pas, adaptez. Mais essayez, quoi.
Ouais, c'est intéressant.
Vous embêtez pas avec un ROI.
Ouais, ça, parce qu'en fait, le ROI, il y a plusieurs points un peu biaisés dans cette approche ROI locale, quoi. C'est on le lit pas à la valeur, et puis oui, on pense prévoir le résultat ou le bénéfice qui en fait n'est pas le bon gain qu'on cherche.
Moi, j'ai quand même le sentiment, je me trompe peut-être, hein, ça reste très personnel, j'ai quand même le sentiment que le ROI égale pour moi optimisation du coût financier. Voilà. Souvent, quand j'ai eu affaire dans mon passé à cet indicateur-là, c'était plus souvent pour obtenir du gain financier ou atteindre des objectifs contractuels complètement démesurables, genre il faut qu'on automatise 60% de test auto. Attends, on va calculer le ROI pour voir si vraiment on va gagner de l'argent ou pas. Pareil, ce taux de couverture 60% des tests manuels à automatiser, ça n'a juste aucun sens. Ça veut dire quoi 60%? C'est quoi la valeur qu'on apporte de dire je veux 60% de test auto? Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce pourcentage. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on arrive à prendre la valeur, quel feedback on a très rapidement pour l'équipe, et est-ce qu'on est serein de ne pas pousser quelque chose qui va nous péter dans les mains en sortie. C'est ça qui m'intéresse. Après, que ça fait, ce qu'on a en automatisation soit de 20% ou 80%, si ça remplit le job, moi, ça me va.
Mais ça pose quand même un sujet, enfin, ça pose en tout cas. Pour moi, j'ai l'impression que ça remonte quand même un sujet dans l'écosystème culturel de la perception de valeur de la qualité, parce que ce que je traduis un peu là, c'est, enfin, où je ressens, c'est on se dit qualité égale gagner de l'argent égale automatiser des tests, en fait. Et il y a même pas de raccourci, c'est il manque le chemin qualité égale meilleure satisfaction client, meilleur produit. On le voit pas comme un investissement qui va augmenter la captation de valeur. Il y a peut-être un élément, tu ressens ça aussi toi?
Bah ouais, j'ai un peu ce sentiment là, et j'ai l'impression que c'est, encore une fois, c'est un sentiment, mais j'ai l'impression que c'est très français en plus. En regardant mes homologues anglo-saxons ou outre-Atlantique, j'ai quand même un sentiment que le prisme n'est pas tout à fait le même, que justement, cette notion de valeur n'est pas tout à fait le même. Il n'y a qu'à regarder, suivre des gens comme John Ferguson Smart, comme Lisa Crispi ou Janet Gregory. Quand on les suit un petit peu, on retrouve toujours un peu les mêmes choses qui sont mises en avant, à savoir le produit et les interactions humaines. Ouais. Et que derrière, ce sont que des outils qui, certes, vont faire accélérer et permettre d'accélérer les choses, de faciliter la vie, mais avant tout, leur premier prisme, c'est la valeur et les interactions humaines. Pour moi, il n'y a rien de tout ça dans le ROI d'une automatisation, quoi. Pour moi, tu ne tires aucune conclusion d'un ROI d'automatisation pour produire de la valeur et favoriser finalement l'interaction humaine pour aller dans le sens de la production de valeur.
Du coup, si on se dit mais quand tu vois du coup ce genre de demande, qu'est-ce que on pourrait donner en guideline en disant non, mais pour recentrer votre approche, peut-être les étapes à prendre, ce serait quoi du coup?
Pour moi, c'est poser les bonnes questions.
Ouais.
Que la demande émerge quelque part, ça ne me choque pas, parce que on a tous le droit à un moment donné de se dire tiens, j'ai vu qu'on parlait de ROI, ça a l'air pas mal, l'automatisation, ça a l'air pas mal. Réflexe un peu peut-être managérial, peut-être le réflexe aussi du bon vieux cycle en V, waterfall aussi derrière. Bref, on demande à calculer un ROI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi on veut le faire? Tu retrouves beaucoup ce schéma-là dans le bouquin justement de Lisa et Janet, Agile Testing Content, tu le retrouves en fait. Le why, ensuite tu te poses la question du où, donc pour qui en fait, et ensuite tu te poses la question du how. Pour moi, l'automatisation et le calcul ROI rentrent dans le how en fait, le comment. Donc moi j'essaierai de tirer en fait, de poser des questions sur pourquoi. Pourquoi on veut calculer ROI, et ça va tirer en fait une chaîne. Et pour l'essentiel, c'est trouver le début de la chaîne.
Le ROI est un des outils.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si effectivement le pourquoi, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent et puis on veut réduire l'équipe de 5 testeurs à 4 testeurs, je suis désolé pour vous, démissionnez, quoi. Démissionnez, allez voir ailleurs.
Il y a d'autres problèmes, parce qu'après, il faudra payer l'outil d'automatisation, il faudra payer l'expertise. En fait, du coup, ce n'était pas le bon sujet à la base, quoi, à adresser, quoi.
Oui, puis il y a l'automatisation. On envoie passer quelques messages, hein, mais dès lors que tu as quelque chose de programmatique, que ce soit un logiciel qui le fait sans programmation ou en pure programmation, l'automatisation reste quand même sujet à maintenance, quoi qu'il arrive.
Ouais.
D'accord? Que l'outil te prétende de tout faire ou pas, à un moment donné, c'est sujet à maintenance, parce que ton logiciel qui est sous test, il vit. Donc ça fait partie d'une réalité. Donc cette logique de ROI aussi, elle est extrêmement difficile à projeter, ne serait-ce que pour la vie. Voilà. Et en agilité, on est quand même beaucoup plus pragmatique que ce qu'on pouvait faire dans les cycles en V. Le pragmatisme veut que on utilise le bon outil au bon moment pour nous apporter de la valeur. Donc j'ai du mal là encore justement à essayer de projeter trop en avance finalement le gain qu'on pourrait faire avec de l'automatisation, alors que dans les faits, mon vécu dans mon passé m'a souvent montré que dans les faits, on dépassait rarement l'étape 1, l'étape 2 par rapport à ce qui avait été estimé.
Mais on s'était fait un film déjà de tout ce qu'on allait pouvoir automatiser, ça va être génial et tout, ça va scaler, on va
Voilà,
pouvoir couvrir tout ça.
c'est
Et en
ça,
fait,
c'est ça.
au bout de quoi? De 4 semaines, c'est ça? De sprint à peu près, où déjà les équipes se disent, ok, non, en fait, c'est just enough, c'est bon, en fait, c'est ça.
C'est cool. Ouais, ça peut être compliqué. Après, il y a des retours d'expérience qui sont très intéressants. Hein. Celui d'AXA, qui régulièrement au JFTL, ils font des retours d'expérience chez AXA sur justement toute leur infrastructure de tests qu'ils ont. Donc, eux, pour le coup, ils ont mis une grosse artillerie lourde. Ça serait intéressant justement de savoir s'ils sont positionnés sur la forme d'un ROI global de cette infrastructure ou s'ils y sont allés vraiment pas à pas. Je crois qu'ils y sont allés pas à pas, mais je ne l'aurais pas parlé pour eux. Mais y aller pas à pas et de se dire que, bah oui, sûrement qu'il y a un ROI derrière qu'on peut peut-être essayer d'estimer, mais quel ROI finalement? Est-ce que c'est l'infrastructure d'automatisation que l'on cherche à mesurer ou est-ce que c'est comment on aide les équipes à produire globalement de la valeur qui va soutenir le métier d'AXA? Et je pense que la réflexion a été plus profonde, en l'occurrence chez eux. Encore une fois, je ne veux pas parler pour eux, mais je pense que la réflexion était beaucoup plus profonde que simplement je prends 50 tests manuels et puis je fais le ROI de ces 50 tests
J'investis
manuels. Et voilà.
X et récupère Y, quoi, un
C'est
peu.
ça. C'est ça. Et d'ailleurs, vu les derniers feedbacks qu'ils ont montrés, ils sont arrivés à une infrastructure à l'échelle qui est quand même assez solide. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir les derniers articles qu'ils ont poussés. C'est quand même pas mal. C'est pas mal ce qu'ils ont fait.
Ouais, mais du coup, ils ont effectivement une infra qui permet de faire de l'automatisation, du test manuel, j'imagine, exploratoire, mais qui est au service de, à la fin, leur.
C'est ça. Qui est au service des équipes et effectivement, ça a un coût, hein, tout ça. Mais je pense que le coût, ils le récupèrent, mais dans la valeur qu'ils produisent derrière, quoi.
Ok. Ouais, donc du coup, apport de valeur, c'est le message clé, je pense. C'est comme un sujet, j'imagine pas. Enfin, il y a effectivement toute la littérature agile, etc., les expériences autour de la production de valeur et sa mesure, mais ça reste un sujet, je pense, quand même vachement complexe à articuler dans les organisations.
Ah oui, clairement, c'est extrêmement facile. Là, moi, je suis dans ma zone de confort à te dire ça. Si on se projette effectivement dans des organisations plus complexes ou hiérarchiquement, managérialement parlant, c'est presque des fois des batailles à chaque étape pour faire passer les messages. Effectivement, je suis d'accord. Ça peut être compliqué de changer l'état d'esprit par rapport à ça. Mais encore une fois, pour moi, le changement, faut pas dire, ah ben non, tu me demandes, oui, je ne veux pas te le faire. Prenez un peu de recul, regardez les contextes. Par contre, essayez de creuser le pourquoi, en fait, essayez de donner du sens, en fait, à la demande. Et peut-être que finalement, dans l'interrogation, peut-être que vous allez trouver le petit truc là qui fait que vous n'allez peut-être pas partir vers de l'automatisation ou un calcul ROI. Peut-être que vous allez avoir une idée beaucoup plus bénéfique, finalement, pour répondre à la problématique. Et là, je vous assure que la personne, vous allez être dans ces petits papiers, en fait, derrière. Parce que vous n'êtes pas contenté d'appliquer bêtement, méchamment une demande, mais vous avez essayé de prendre du recul et de comprendre, en fait, ce qui se cache derrière. C'est souvent ce qui se passe quand les clients viennent pour exprimer un besoin. Souvent, ils arrivent avec une solution. Bah, c'est pareil, en fait. Faut essayer de prendre du recul. Peut-être que ce qu'il propose comme solution n'est pas complètement déconnante.
Oui, mais c'est une
Mais
parmi et peut-être déjà biaisée ou partielle en tout cas,
c'est
versus.
ça, c'est ça. Donc c'est la même réflexion. Encore une fois, c'est très facile à dire.
Oui.
C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. C'est une évidence, clairement.
Donc, C'est toujours intéressant de partager ces perspectives parce qu'en fait, on voit surtout dans l'engineering, moi j'ai l'impression, comme on est dans l'engineering, on se dit, on est là pour, enfin, on se dit, moi je vois souvent, c'est les gens, ok, bah, moi je dois coder, je dois faire du test, je dois produire des choses techniques, technologiques, etc. Et en fait, bah, là, ce que tu viens de partager pour moi, c'est vraiment la matérialisation de, bah, en fait, pour réussir votre job et du coup la création de valeur, etc., on se rend compte là, à travers ce que tu dis, c'est par le partage, la collaboration, l'empathie, l'écoute. Et
Ah, ça.
on n'a pas parlé d'automatisation, on n'a même pas besoin de PC. S'il faut, il faut juste d'avoir un post-it, savoir écouter, avoir du soft skill. Et ça, je trouve ça, enfin, intéressant de garder cette perspective, en fait, qu'on.
Bah, c'est ce qui est tiré par les différents rituels. Plusieurs rituels agiles vont dans ce sens-là. Les example mapping, les impact mapping, tous ces rituels-là où finalement on est plus sur de la collaboration. Alors certes, il peut y avoir quelques outils, notamment distanciels aujourd'hui,
Oui,
il y a des
je
outils
supporte
qui vont
ça.
aider, mais voilà, mais. Moi, quand Lisa, des fois, Lisa Crispin balance des tweets, il a dit, prenez juste un stylo et un bloc-notes et mettez-vous autour d'une table, mettez-vous debout autour d'une table, ou alors levez-vous et allez écrire sur le tableau, allez dessiner ce que vous êtes en train de penser sur le tableau, à quoi vous pensez. Effectivement, je suis assez d'accord avec elle qu'il y a de fortes chances que ça active des mécanismes de collaboration beaucoup plus forts que je t'envoie une demande par mail, je te donne pas de contexte, je t'envoie une spec, vas-y, tiens, c'est ça qu'il faut développer, il y a rien autour, on ne veut pas discuter. Ça, je l'ai connu dans les bons vieux Silicon Valley. Donc oui, donc pour moi, l'agilité, ça tend vers vraiment vers, ouais, les interactions humaines plus que les process et les outils. On y est, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de process et pas d'outils, mais on va essayer de sublimer finalement la collaboration. Et je parle bien de collaboration, hein, voilà, avec des outils qui vont soutenir. Et quand on commence vraiment à être mature sur l'aspect collaboratif, pour moi, on tombe dans le collectif. Et une fois qu'on est dans le collectif, là, on a passé un cran pour moi. Et le collectif, ça abat des montagnes. Franchement, il n'y a rien de plus fort que le collectif pour moi. Et on peut être collaboratif et pas collectif.
C'est effectivement, je pense que le choix des mots et en tout cas comprendre bien leur signification est hyper important parce que les nuances sont
Bah,
souvent très
la nuance, elle est
parlantes.
facile, hein. Moi, j'ai l'exemple parfait, hein. Vous prenez l'équipe du foot, hein. Vous pouvez mettre les meilleurs joueurs du monde dans la même équipe, hein. Collaborativement, on se dit que sur le papier, il n'y a pas de débat, elle gagne. S'il n'y a pas de collectif, je suis sûr qu'elle ne gagnera pas la Coupe du Monde. Voilà.
Oui, du coup, on retrouve
Un petit exemple pour mes amis parisiens, si ce sont mes visites.
les équipes qui ont
Oui,
le
pour
meilleur budget, c'est pas forcément au top 1, quoi. C'est un peu ça
C'est ça, c'est ça. Lille est champion et pas Paris. Pourtant, sur le papier, si on regarde, il y a plus de stars à Paris. Voilà. Non, mais voilà. Et puis, parce que sur un match, pareil, hein, produire un logiciel, on peut être très très bon sur 3, 4, 5 sprints, et puis complètement rater le sixième, parce qu'il y a une fatigue, parce que justement, le collectif était plus rendez-vous. On a fait du collaboratif, mais le collectif était plus rendez-vous. Ça peut arriver. Et ce n'est pas les outils, et ce n'est pas le ROI d'automatisation qui va venir prévenir de ça. Là, c'est vraiment c'est l'humain. Là, on est sur de l'humain, en fait. On n'est pas sur de l'outillage. Là, on est sur de l'humain quand ça se loupe comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et c'est beaucoup plus difficile, justement, de garder, justement, la cohésion et le collectif pour produire de la valeur. C'est un vrai challenge, là, beaucoup.
OK. Non, c'est vachement intéressant, je trouve. Sorti pas mal de points clés. Et je vois que tu as partagé pas mal de contenu autour de Lisa et de Janet qui sont effectivement bien, bien connus. Et tu aurais d'autres, je sais pas, des références, des citations. Qu'est-ce qui t'inspire, toi et Ted, ça peut être au
Ouais,
quotidien en lien avec ce sujet.
au niveau international, effectivement, les livres de Lisa et Janet font quand même référence, hein, clairement. Il y a aussi tout ce que partage Alan Page avec tout ce qui est lié au modern testing. Il y a des choses intéressantes. Je ne partage pas forcément tout, peut-être aussi par méconnaissance de certains sujets que lui, il adresse, mais le pilotage par la data, par exemple, qui est vraiment cher pour lui, est vraiment intéressant aussi. Il y a un bouquin aussi qu'un ancien collègue à moi a sorti il n'y a pas longtemps avec son collègue, Le Chaînon Manquant,
Ah
de
oui.
Valentin Garlesquin et Henri Bigot. Et c'est intéressant parce que ça touche à l'automatisation et il se positionne justement dans un grand groupe où comment amener finalement l'équipe à se transformer. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il n'y a pas une fois le mot ROI dans le bouquin. Donc, c'est peut-être intéressant à lire. Ouais. Alors, peut-être que je dis de bêtises. De toute façon, Valentin, il va m'envoyer un message. il va me défoncer derrière. il fait, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais non, mais je crois qu'effectivement, je n'ai pas vu, en tout cas, le focus par rapport à Roy. C'est pas ce que moi, j'ai retenu du livre, en tout cas. Moi, j'ai retenu vraiment une équipe, justement, qui cherche à démarrer l'automatisation. Et comment, au sein d'une organisation avec justement une transversalité présente, elle y arrive. Donc, je ne vais pas tout dévoiler, c'est plutôt bien fait, c'est fait sous une forme romanesque, ça se lit très bien. Franchement, si vous voulez vous inspirer un petit peu sur le sujet d'automatisation et vous questionner, allez-y, ce n'est pas pour faire de la pub pour mes collègues, c'est vraiment un bon livre. Et puis, les classiques chez Lisa et Jeannette, hein, le Agile Testing Condense, par exemple, est vraiment un regroupement de choses intéressantes puisque ça tire d'autres références. Donc vraiment, elles vont tirer les références sur l'example mapping, sur les impact mapping, les origines en fait de toutes ces choses-là, la pyramide de test, alors qui au passage c'est la pyramide d'automatisation de test, la pyramide de test, mais voilà, et elles vont tirer en fait tout ça et il y a des choses à prendre dedans. Donc voilà. Et puis, pour l'instant, c'est plus en anglais, mais bientôt il y aura la version française de ce livre, c'est bon.
Ah oui, petit teaser d'ailleurs.
Ouais, j'en profite, je tease.
Bientôt, quelques mois, c'est ça, là, durant l'été ou...
Alors, je ne vais pas donner de date exacte parce que je ne voudrais pas m'avancer trop vite.
2021.
On est en finalisation de relecture avec ma compère Emma Yadi sur la traduction du livre, effectivement. Donc, je pense que ça devrait arriver incessamment sous peu, je pense. On va pas s'engager sur la date quand même.
Super, merci d'avoir partagé. Et puis du coup, je te dis bon courage avec tous les autres activités que tu as autour des communautés et meet-up, parce que du coup, plus ce projet-là, j'imagine que tu es bien occupé. Puis,
ça va, je vais les... ouais, on va essayer de redescendre un petit peu pour la partie de
pour l'été. Pour une petite pause, rechargement.
ouais, ça fait du bien de temps en temps quand même.
Non, ça marche. Merci beaucoup, Benjamin.
Merci à toi, Antoine.
Ouais.
Bonne soirée.
Salut.
Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qeunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine.